Midi 36, vous avez des choses à nous dire, 418-971-1021, 418-971-1021, merci d'être nos yeux, nos oreilles sur la route, les amis. Juste avant les manchettes de Pascal et le petit bulletin de sport, c'est moins 2 degrés sur Québec, on nous annonce de la neige d'ici ce soir, entre 5 à 10 cm annoncés pour ce soir et cette nuit. Demain jeudi, ce sera de la neige qui devrait cesser en mi-journée, 30% de probabilité d'averse de neige par la suite. Pour ce qui est de demain, on nous parle d'un 2 cm. Vendredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de moins 7. Samedi, une belle journée ensoleillée aussi avec un maximum de moins 9. Et dimanche, ce sera de la neige avec un maximum de moins 4. Qu'est-ce qui fait jaser aujourd'hui?
Ben, on parle beaucoup de cette liste des 25 criminels les plus recherchés au pays. Picturmel qui est au sommet, celui qui tient en fait la Blood Family Mafia et qui est en fuite en ce moment du côté de l'Europe. Faut quand même savoir qu'il y a un sommet des 25 criminels les plus recherchés au pays qui ont été révélés par les autorités ce matin parce qu'on en a fait des grandeurs nature. On a fait comme des pancartes et on a utilisé beaucoup d'argent en fait pour les imprimer. Ça s'appelle le programme BOLO. C'est une initiative qui encourage la population à garder l'œil ouvert pour les retrouver. Mais le 250 000 $ qui mène à des récompenses, qui mène justement à certaines arrestations, sont toujours en jeu. Les têtes dirigeantes de plusieurs corps de police veulent attirer l'attention là-dessus et pas juste sur la récompense, mais quand même sur le fait de mettre la main sur ces gens-là. Ivre au volant, elle a provoqué 2 collisions en 6 mois. On parle d'une chaufarde qui a blessé 5 personnes au total pendant ces 2 événements distincts-là. C'est en l'espace de 6 mois, c'est très, très court. Est-ce qu'on a compris la nature de nos comportements? C'est ce qu'on se pose comme question. Pour cette femme qui conduisait avec les facultés affaiblies, elle a été impliquée dans des collisions et elle s'appelle Camille Chalifour. Elle a reconnu sa culpabilité. Ça a été fait au Palais de justice de Québec. Elle a fait face à des accusations pour avoir conduit avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite causant des lésions. Ça fait partie de nos enjeux au Palais de justice. Le budget 2025 de la Ville de Québec, accélération des investissements dans le tramway. On a décidé de mettre un petit peu le pied et la vitesse au tapis pour ces investissements-là dans les travaux préparatoires. Donc, il y a eu une pause forcée, vous savez, l'an dernier, et on reprend de plus belle. Peut-être dans une nouvelle qui est un petit peu plus loin de nous et qui intéresse énormément aujourd'hui, c'est du côté des États-Unis. Il y a le patron du premier assureur santé, United Healthcare, qui a été tué par balle ce matin, en plein centre de New York. On nous parle d'un assassinat ciblé, suspect en fuite dans la capitale mondiale de la finance.
Il était-tu assuré? C'est épouvantable.
C'est...
Ils sont rendus là.
Oui, mais c'est rare là maintenant qu'on voit des assassinats du type ciblé. Gens d'affaires, Brian Thompson, 50 ans, abattu là, devant des gens près de l'hôtel Hilton du quartier Midtown. C'est le centre de Manhattan. Là. On abrite beaucoup de sièges sociaux, de banques, entre autres, à cet endroit-là.
J'imagine qu'on en saura peut-être plus dans les prochaines heures. Victoire du Canadien hier, 2-1 face aux Islanders et Patrick Roy. C'est grâce à un but de Nick Suzuki en prolongation. L'autre réussite du tricolore. On appelle ça une réussite. Ça a été réalisé par Pat Laine en avantage numérique. Tout un tir du côté éloigné. C'était de toute beauté à voir. Ovation debout pour Pat Laine. Patrick Laine qui disait « J'ai jamais vu ça de ma vie ». Bienvenue à Montréal, mon ami. Profite-en pendant que ça passe parce qu'à un moment donné, tu vas entendre des huées quand ça va pas mal. Quand ça va mal, en fait. Prochain match, c'est demain face aux Prédateurs au Centre Bell. Et sinon, confrontation des 4 nations. Pascal, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. On va faire ça pendant le... Dans les prochaines semaines, si je ne me trompe pas, c'est au mois de janvier, là, c'est ce que Jeff nous avait dit. Ça va être dévoilé ce soir, les alignements. Suède et Finlande, c'est dès 14h. Et le Canada et les États-Unis, c'est dès 18h30 ce soir. Juste pour l'alignement projeté du Canada, ça serait complètement fou si c'est ça. En fait, il y a plus de chances que ce soit ça qu'autrement. Reinhardt, McDavid et Marner sur la même ligne. Marchand, Crosby, MacKinnon sur la deuxième. Hagel, Brendan Point et Stone sur la troisième. Et sur le quatrième trio, ce serait Bennett, Ciccarelli et Konechny. Voilà. Sinon, à la défensive, ce serait Toews, Makar, Théodore, Pietrangelo, Morrissey et Parayko qui pourraient être là. Donc, on a bien hâte de voir ça. Puis pour ce qui est des gardiens, jusqu'à maintenant, c'est Bennington, Hill et Montembeau. All right, passons au prochain sujet. On en a parlé il y a de ça quelques jours du fiasco de Sacklick. On apprenait qu'il y avait des millions et des millions de dollars qui avaient été dépensés avec Sacklick. Puis on avait eu recours à de l'aide externe du gouvernement pour essayer de comprendre tout ce qui s'était passé. Là, c'est la SAC qui va payer plus de 450 000 $ pour obtenir des services conseils d'une firme privée. Puis on a eu l'idée d'inviter un expert. J'imagine que c'est la première fois qu'il entend parler de ce sujet-là. Son nom, c'est Patrick Mathieu, expert en sécurité informatique. Salut, Patrick.
Bonjour.
Merci d'être là. Tu n'es pas surpris, toi, oui. quand tu vois ça, de l'aide externe de la part des gens du gouvernement pour aller chercher des gens peut-être un peu plus compétents. Ça arrive-tu souvent? Qu'est-ce qui se passe? Pour quelles raisons on fait ça?
C'est pas mal l'approche principale que le gouvernement utilise depuis au moins une quinzaine d'années, hein, si ce n'est pas plus. Le pourquoi, il y a vraiment beaucoup de raisons, mais ça a surtout beaucoup de conséquences parce que il y a plusieurs choses au gouvernement. Ça s'améliore, évidemment, mais on a le problème que si on retourne peut-être 10-15 ans en arrière, il y a beaucoup le concept de « j'ai ma tâche et je ne ferai rien d'autre » ou même, tu sais, avec les syndicats et tout, tu peux pas faire d'autre chose. Dans le sens que au privé, admettons, je dis à un employé « il faut faire tel projet avec telle technologie » et la personne ne le fait pas, elle va s'organiser, elle va l'apprendre, ça se peut qu'on y paye une formation. Ça, c'est pas la culture au gouvernement. Au gouvernement, généralement, si on n'a pas la connaissance, on n'a pas l'expertise, on va aller chercher des firmes externes pour qu'ils le fassent. Est-ce qu'ils ont nécessairement plus d'expertise? Ça ne veut pas dire. Peut-être qu'ils vont faire, comme je viens de dire, ils vont aller l'apprendre et ils vont le faire. Le problème avec tout ça, bien, l'expertise est temporaire. Hein? C'est un contrat. Fait que quand la personne s'en va, il n'y a pas vraiment de transfert de connaissances. Fait que la connaissance disparaît. Fait que quand on a une mise à jour, on a des problèmes, on a quelque chose à faire, il faut retourner encore une fois avec ces firmes-là puis les ramener. Et là, ben, ça coûte cher. Ça coûte extrêmement cher.
Est-ce qu'il pèse sur le crayon, sachant que le gouvernement ne sait pas justement combien ça coûte en général, ce genre de service-là?
Le service externe, tu veux dire?
Oui.
Bien, je veux dire, ils savent le prix, mais c'est un concept de culture d'entreprise. Hein. Ça fait que si ça fait des vingtaines d'années qu'on fait ça, qu'on utilise toujours de l'externe, de changer le tout pour que tout le monde réussisse à développer à l'interne correctement ces solutions-là, c'est difficile. Puis l'article que vous m'avez partagé tantôt le démontre correctement. C'est le niveau de bureaucratie qui n'a pas de sens.
Parce qu'on regarde, c'est le ministère de la cybersécurité, du numérique. On regarde juste l'organigramme, là. Ça prend 9 pages juste pour l'organigramme. Là-dessus, il y aurait à peu près 160 postes de sous-ministres. Ça, c'est des gens qui gagnent extrêmement cher. Des directeurs, des sous-directeurs, des adjoints. Puis comme Richard Martineau le disait hier dans son papier, ça, c'est sans oublier tous les fonctionnaires qui travaillent dans ces bureaux-là qui, eux, n'ont pas de titre. C'est une baleine, ce ministère-là. Puis on apprend qu'on va constamment...
C'est pas juste le MCN. J'ai fait la même démarche il y a un mois ou deux pour notre podcast. On ne l'a pas réalisé parce que c'était trop sensible. Mais on a fait la même démarche pour la SAAC directement. Juste regarder le département de l'informatique de la SAAC. Et on s'est ramassé avec une cinquantaine, voire 80, je n'ai plus le chiffre exact, là, mais c'est dans ces environs-là, de directeurs, de managers, de gestionnaires, juste pour le département de l'informatique. C'est presque plus gros que des multinationales qui font des milliards par année puis qui gèrent des milliards de requêtes par jour. Là, c'est un ministère pour un truc, la SAAC. Ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs applications en arrière, mais ça reste que c'est pas si énorme que ça, pour 8 millions de personnes. Mais qu'est-ce qu'on fait? la lourdeur n'a aucun sens. Pensez à si, juste en gestion, de l'informatique, il y a une cinquantaine de gestionnaires. Comment qu'on fait pour avoir, une vision, une rapidité, une agilité, puis de se revirer quand il y a des problèmes? Il faut passer à travers une cinquantaine de personnes, de départements, puis une centaine d'employés dans chacun de ceux-là. Ça remonte en haut, ça redescend. Tu peux pas réussir.
Patrick Mathieu, les gens qui font carrière au gouvernement en informatique, c'est-tu des gens qui sont qualifiés?
Ça, c'est un de mes points que j'essaie de discuter souvent, puis c'est un problème. Je dis pas que la majorité n'ont pas le talent ou les connaissances, mais quand tu es fonctionnaire de carrière, que tu as eu un seul emploi dans un seul type d'entreprise qui est le gouvernement, ta vision est très tunnel. Tu peux juste voir une chose. Puis quand on a fait l'exercice avec la SAAC, la majorité des gestionnaires, des VP jusqu'au directeur, ont seulement travaillé soit à la SAC ou à 2-3 ministères. Ils n'ont jamais rien vu d'autre. Ils n'ont jamais eu d'expérience au privé. Ils ne savent pas comment gérer des projets de cette envergure-là. C'est pour ça que ça va mal. Si ces personnes-là auraient une rotation avec de grandes entreprises, des startups, de la consultation, de voir 25 manières différentes de faire les choses, évidemment qu'on aurait des gestionnaires qui...
T'es-tu encore là, Patrick? Je pense qu'on l'a perdu. Il va falloir lui reparler. Mais bref, on parle avec Patrick Mathieu, qui est expert en sécurité informatique. Puis le papier que je vous lis là, sur l'organigramme, 9 pages. Pascal, 9 pages, c'est épouvantable de savoir qu'il y a 160 postes de sous-ministres. C'est des jobs à 200-300 000. Donc, 160 jobs de sous-ministres à 200-300 000 dans le ministère de la cybersécurité. Après ça, tu ajoutes des directeurs, des sous-directeurs, des adjoints, puis tous les fonctionnaires qui travaillent là, Pascal. C'est un monstre qu'on ne contrôle pas puis qu'on a constamment besoin d'aller chercher des firmes externes en informatique pour venir nous appuyer.
Au dépôt du projet là, de revamper la SAAQ, entre autres, CLIC, là, je comprends pas qu'on n'ait pas fouillé dans l'expertise et on ne s'est pas assuré justement qu'on avait les gens qui concrètement pouvaient assurer ce genre de changement-là. On va l'avoir en santé, c'est déjà commencé à certains endroits. C'est gros ce qu'il a dit, là, Patrick Mathieu. Là, il est allé évaluer les CV de tous et chacun puis s'est rendu compte qu'il y avait personne qui était vraiment capable de gérer la tâche. Je suis pas capable de raccrocher pour le rappeler, c'est ça le problème.
Voilà.
Excusez, on fait 150 choses en même temps, puis on est deux en studio. Mais ça, c'est fascinant, là. Je veux dire, si lui est capable de s'en rendre compte, pourquoi il n'y a pas personne à l'interne qui était capable de s'en rendre compte? Puis au nombre d'argent dépensé en stratégie externe ou encore en aide externe, en expertise externe, ça fait en sorte que probablement si on avait engagé à fort prix certaines personnes compétentes, on n'en serait même pas là en ce moment.
Puis peut-être qu'ils font toujours la même chose aussi. On leur demande de faire une tâche, puis ils travaillent toujours sur cette même tâche-là, ce qui fait en sorte qu'ils ne travaillent pas sur plusieurs projets. Donc, leurs intérêts diminuent, leurs connaissances, bon, ils restent bons pour ce qu'ils sont en train de faire, mais ils ne sont pas capables d'amener d'autres projets. Des auditeurs qui nous écrivent au 418-971-1021, 418-971-1021, ils disent « Salut, j'ai travaillé pour une firme de TI et ils engagent sur CV pour combler des postes demandés. Souvent, ils proposent des candidats non disponibles dans les soumissions et espèrent que la personne sera dispo s'ils ont le mandat. » Ça serait une façon de faire.
Patrick est au bout du fil, on l'a récupéré. Il va pouvoir compléter sa pensée par rapport à ça. Salut Patrick!
M'excuse Patrick, on t'avait perdu.
Ben non, il n'y a pas de trouble, ça a coupé. Oui, c'est vraiment une chose qui existe. Hein. On applique sur des appels d'offres avec des personnes qui n'existent pas dans l'entreprise, ça, les entreprises de services conseil.
OK.
Quand ils gagnent le contrat, ils vont s'organiser pour trouver une personne qui fit ce CV-là.
Ah, c'est ça qui est problématique.
Puis le montant qu'ils mettent pour ce poste-là, est-ce qu'ils payent sur le crayon parce qu'ils ne savent pas comment cette ressource-là externe va charger?
C'est très standard souvent. C'est un poste, mettons, qui vont dire senior, ça va être peut-être à 120 $ de l'heure. Si c'est un junior, ça va être dans les 60-80. Fait que, tu sais, ils savent déjà le montant. Ils vont aller chercher une personne qui fit dans ces salaires-là. Je me fais appeler des fois pour des mandats, puis c'est arrivé récemment. Là, on a gagné tel appel d'offres, mais on n'a pas la personne. Est-ce que tu es capable de participer à telle affaire? Fait que ça, c'est un problème grave. T'as l'autre côté de la médaille, t'as des appels d'offres qui disent « Nous, on aimerait avoir tel type de personne avec telle certification, avec telle chose. » Mais savez-vous quoi? Il y a juste une personne au Québec qui a ça. Fait que l'appel d'offres sont souvent, mais très, très souvent, désignés pour que telle firme ou telle personne gagne. Ça, c'est la collusion comme ça, c'est toujours là.
Pis ça, tu l'as vu de tes yeux vus, là. Ça se fait, là.
Oui, tout à fait. Puis on nommera pas de nom, mais tout le monde connaît les entreprises à Québec en cybersécurité qui font ça. Une qui a été rachetée récemment, là, sont connues pour techniquement frauder d'une certaine manière le gouvernement.
T'as-tu l'impression qu'avec l'enveloppe là, qu'on a au ministère de la cybersécurité, là, si on confiait ça à une entreprise privée, t'as-tu l'impression qu'on serait peut-être un peu plus performant qu'actuellement?
C'est pas si pire. Moi, mon problème avec le MCN, en fait, c'est même pas ça. Le problème, moi, c'est les autres ministères. Tu sais, on a parlé de la SAAQ, qui a des centaines de personnes juste en gestion. Ça n'a aucun sens. Le MCN, c'est qu'il manque de pouvoir, puis il n'est pas indépendant. Le MCN devrait être un organisme indépendant qui a le pouvoir de faire ce qu'il veut et de forcer les autres ministères à faire qu'est-ce qu'ils veulent. Présentement, le problème, c'est qu'on a Éric Kerr, il est ministre,
pour, oui, le MCN, mais il a sa job de ministre normal, fait qu'il va aller parler du pont. Pont de Québec, ça n'a pas rapport. Et on devrait avoir quelqu'un d'indépendant qui est un expert en cybersécurité qui gère ce ministère-là. Pareil comme aux États-Unis avec CISA, qui est le ministère de la cybersécurité. Puis les personnes qui sont au top de ça, c'est les personnes les plus reconnues aux États-Unis en termes de gestionnaire de cybersécurité. Ils savent de quoi ils parlent. Ils ont eu l'expérience dans les entreprises, au gouvernement, dans les militaires. Ils ont fait le tour. Ils savent de quoi ça se passe. Ici, même si Cass est un des seuls ministres qui existe dans tous les ministres de toutes les parties qui sait comment gérer de l'informatique, il a déjà travaillé là-dedans, il n'est pas indépendant, il n'a pas le pouvoir de faire rien. Fait que c'est ça qui est difficile, pas rien, mais on s'entend très limité. Puis là, tu as tous les autres ministères en dehors de ça qui dépendent de lui, mais il n'y a pas vraiment 100% de pouvoir. C'est compliqué, là. On se retrouve dans une situation qui ne fonctionne pas. Puis je pense que ça, c'est la prochaine étape, d'avoir vraiment une indépendance à ce niveau-là.
Je regarde
Le reste, c'est comme vous avez dit, hein. Il y a trop de gestionnaires, pas assez d'exécuteurs. Là.
Je regarde le CV d'Éric Kerr, là, pas celui-là sur lequel il nous avait menti, mais le vrai. Ouais. Une formation en informatique au Collège Multi-EXA. Est-ce qu'il est compétent pour ce genre de travail-là, d'être ministre de la cybersécurité?
De ce que je le connais, puis quand on parle... Il connaît tous les problèmes, il sait de quoi il parle. Est-ce que c'est un expert en cybersécurité? Sûrement pas versus plusieurs autres dans la communauté, là. Ça, c'est sûr. En dessous de lui, par exemple, il y a quand même beaucoup de monde qui savent de quoi il parle. Mais quand on dit beaucoup, c'est pas la majorité. Là. Il y a beaucoup de sous-ministres adjoints qui viennent de changer. Là. Il y en a un qui vient d'être remplacé, puis cette personne-là connaît ça. Tu fais 20-30 ans qu'il est en cybersécurité et tout. Les autres avant qui ont été placés, entre Steve et la dernière personne, Steve Waterhouse, que vous connaissez sûrement, c'est des personnes qui n'ont aucune expérience en informatique. Comment voulez-vous que ça fonctionne?
J'ai une question pour toi, Patrick, puis je pense que tu vas la comprendre. Là. Si vous ne comprenez pas la gang, vous me le direz. C'est-tu un métier où les diplômes ne comptent pas? J'explique. C'est-tu des métiers où il y a beaucoup de choses qui s'apprennent sur le tas par la curiosité personnelle, par certaines embauches où tu as eu justement un poste clé, tu as appris d'experts qui ont appris par eux-mêmes dans leur sous-sol ou sur leur banc? Ou c'est-tu un métier où tu dois être immergé là-dedans puis dans ton CV côté études, ça va pas paraître? Puis parfois, ben, tu vas être engagé pour ces dites études, mais tu ne seras pas nécessairement compétent.
La majorité des jobs techniques, que ce soit en informatique et autres, c'est souvent ça. Parce que oui, le diplôme te dit quelque chose qui est généralement que tu es capable de t'organiser pour réussir à faire un diplôme. Tu n'es pas quelqu'un tout croche ou mal organisé. C'est généralement ce que ça va te dire. Mais informatique au sens large, puis en sécurité encore plus, oui, tu peux avoir un diplôme puis travailler dedans, mais la première chose qu'on regarde, c'est l'expérience. Fait que si tu n'as pas d'expérience, tu es généralement considéré assez junior. Faut que tu aies un mentor puis que tu apprennes sur le tas. Mais le problème en cybersécurité, c'est que tu dois comprendre le fonctionnement de l'informatique au complet. Fait que, pour de sécuriser une application, il faut que tu saches comment l'application fonctionne au niveau du réseau, des appels, de la technologie, de la programmation. Vraiment, toutes les couches. Fait que quand tu commences, les rôles sont assez limités. Tu es généralement plus au niveau d'analyser les attaques, parce que c'est des journaux, là, des alertes que tu reçois, ou de faire des attaques, parce que tu peux te concentrer à faire des attaques spécifiques pour trouver des vulnérabilités. Mais être un gestionnaire en cybersécurité qui n'a jamais touché à des TI, puis tu deviens responsable de gérer un ministère des TI ou de sécurité, c'est compliqué, là.
Une autre histoire. Patrick Mathieu, toi qui es un expert en sécurité informatique, tu es dans ce merveilleux monde-là depuis des années. Il y a plusieurs Français qui tentent une incursion dans l'industrie québécoise de l'informatique. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est l'Empire contre-attaque?
Excuse, répète ça-là, ça a glitché.
Il y a des Français qui tentent de prendre le marché québécois dans l'industrie de l'informatique. Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu quelque chose auquel vous vous attendiez? Parce qu'il y a énormément de Français qui viennent suivre leur formation dans les collèges privés au Québec. Là.
Mais... Ben ça, en fait, c'est un dossier spécial. Toutes les entreprises à Québec, surtout qu'on parle consultation, là, ceux qui travaillent avec le gouvernement qu'on vient d'expliquer, font du recrutement ailleurs avec la France, avec l'Afrique, le Mexique, etc. Ça, c'est pas nouveau. Quand je commençais dans le domaine il y a une quinzaine d'années, c'était ça aussi. Là, c'est un dossier différent. T'sais. Moi, je gère sur le côté l'événement du Hackfest, qui est une grande communauté au Québec là, en cybersécurité. On a plusieurs événements, des podcasts, etc. Puis, il y a à peu près 3 ans, quand la pandémie était sur la fin, Il y a eu une entreprise là, de l'Europe qui organise ce qu'ils appellent la FIC, là, le Forum in Cyber, qui, eux, ont un événement de cybersécurité en France. Et ils ont décidé d'en faire un à Montréal. La problématique qu'on veut lever aujourd'hui, c'est parce que quand ils sont venus, il y a à peu près 3 ans, ils ont décidé de faire ça les mêmes dates que le Hackfest. Et ils ont même pas osé regarder le site web pour trouver les dates. Et ils m'ont appelé pour me demander de mettre mon événement dans leur événement pour techniquement que mon événement disparaisse. Puis il faut le dire, le Hackfest, c'est le plus grand événement de hacking au pays là depuis plusieurs années. Puis on est similaire avec l'événement de Montréal, là, le NordTech. Puis ce genre d'événement-là qui vient de la France est ouais. financé par le gouvernement du Québec. Ils ont reçu plus de 800 000 $ pour faire un événement au Québec, aidé par tout ce qui est le MEI, le MCN, etc. Et toutes nos organisations, on a un circuit des événements de cybersécurité du Québec. Là, comme je disais, il y a le NordTech, il y a l'Access, il y a le B-Side à Montréal, il y en a 6-7 autres. Et aucun de ces événements-là n'ont de l'argent du gouvernement du Québec. On a le support, oui, M. Carr va se présenter, mais c'est tout. Fait que là, on utilise nos taxes pour un événement qui vient d'un autre pays pour gérer notre propre sécurité ici. Pour faire des relations ici, je trouve ça inacceptable dans le contexte que au Québec présentement, autant en informatique que politique, on force beaucoup à investir localement. On parle d'immigration tout le temps. Puis là, on s'en va donner presque 1 million à une entreprise externe pour prendre la place d'une communauté qui existe déjà. Et la dernière nouvelle qui est sortie hier matin, cet organisme-là a rebooké cette année, l'année prochaine, la même semaine que notre événement, encore une fois, de manière totalement malicieuse. Là, on a des on a des screenshots et autres qui disent qu'ils ont nécessairement ils ont choisi cette date-là. Fait que nous, on demande évidemment au gouvernement du Québec et au NCN de supporter le local puis d'arrêter de supporter ce type d'événement-là. Puis c'est pas juste en cybersécurité, là, ça arrive partout. On est à Toronto, il y a un autre événement similaire. Plus informatique générale, qui c'est le même concept, sont venus d'un autre pays, puis ils prennent l'argent de notre pays pour pousser toute leur, finalement, leur information qui vient d'ailleurs. Là.
Est-ce que vous avez posé
des lobbying, ouais, on s'entend.
Est-ce que vous avez posé des questions à savoir pourquoi eux sont subventionnés, puis vous autres, des organisations comme vous autres, vous ne l'étiez pas?
Ben, en fait, ce qui est difficile...
T'es en train de le perdre encore. T'es-tu encore là, Patrick? T'es-tu encore là?
Ça fonctionne?
Oui, ça fonctionne. Là.
Excusez. Parfait. C'est du lobbying. Donc, il faut, eux, ont 5 à 8 personnes temps plein qui parlent au ministère de l'Économie pour avoir de l'argent. Nous, on est des bénévoles, on fait ça pour le fun et la communauté, mais on a la plus grande au Québec et au Canada. Fait que, c'est comme, c'est pas un fair game, évidemment, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
OK, donc on peut suivre le Hackfest, là, on peut le suivre sur vos pages Facebook. Là, puis j'espère que, il faudrait peut-être que tu poses des questions sérieusement, là, de voir que cet argent-là s'en va aux Français. On les aime bien, les Français, là, mais si on a déjà des entreprises d'ici, avec des gens d'ici qui font exactement la même affaire, puis là, ben le gouvernement se sert de notre argent pour les encourager, eux, je trouve qu'il y a une certaine injustice.
Avec nos enjeux d'ici, puis ça fait un peu parallèle.